Bonjour et bienvenue dans De l'idée au projet, le podcast du Relais Culture Europe, bureau français du programme Europe Créative, dans lequel on se demande comment monter un projet culturel européen de A à Z, comment l'imaginer, le pitcher, trouver les bonnes personnes pour y collaborer et surtout comment le financer. Dans chaque épisode, on découvre les coulisses d'un projet ou d'une entreprise culturelle qui nous dévoile les secrets de sa réussite. Aujourd'hui, on parle de création musicale et de réseau européen pour faire émerger de jeunes artistes avec Andrew Gerjou, qui a longtemps coordonné le projet Ulysse pour l'IRCAM, l'Institut de Recherche Scientifique et Création Musicale. Si vous habitez à Paris ou que vous êtes déjà venu, vous avez sûrement déjà aperçu ce bâtiment tout en hauteur, à côté du Centre Pompidou et de la Fontaine Stravinsky, réalisée par Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely. Je commence par demander à Andrew Gerjou de m'expliquer ce qui s'y fait à l'IRCAM, justement.
L'IRCAM, c'est un institut qui a été imaginé par Pierre Boulez à une époque où c'était évident que les nouvelles technologies qui émergeaient pouvaient jouer un rôle important dans la musique. Donc, il a créé un institut où, idéalement, les musiciens, les compositeurs et les ingénieurs travaillent ensemble pour développer des nouvelles technologies pour la musique et ainsi élargir le vocabulaire musical de la composition contemporaine. Bon, l'IRCAM, finalement, s'est développé pour devenir beaucoup plus que ça. Donc, c'est devenu un lieu de production musicale avec des concerts, avec des tournées. C'est devenu un lieu de recherche en tant que tel. Il y a aussi une activité très forte sur le plan pédagogique. Donc c'est le projet initial de Pierre Boulez est allé beaucoup plus loin de ce qu'il avait imaginé.
C'est donc un des plus grands centres de recherche public au monde autour de la création musicale et de la recherche scientifique qui s'articule autour de trois axes, rechercher, créer et transmettre. Comment vous mettez en pratique ces trois axes? Est-ce qu'ils sont imbriqués ou est-ce qu'il y a vraiment trois actions ou trois sortes d'actions différentes qui sont très séparées?
Tout le but de la manœuvre de l'IRCAM, c'est de les imbriquer le plus fortement possible. Les créations musicales qui se font très souvent en collaboration avec des acteurs de la recherche au sein de l'Institut. Il y a une collaboration qui se fait à ce niveau-là. Par exemple, les jeunes compositeurs qui viennent faire leur formation pendant une année dans ce qu'on appelle le cursus, à la fin du cursus, il y a un concert avec des pièces qu'ils ont créées utilisant ce qu'ils ont appris. Très souvent, ça déclenche des commandes de promotion des compositeurs, etc. Donc, tout est imbriqué.
Vous êtes entré à l'IRCAM en 1977. Est-ce que vous pouvez me résumer votre parcours au sein de cette institution?
J'ai commencé comme chercheur. J'ai appris beaucoup de choses sur le tas parce que quand je suis arrivé à l'IRCAM en 1977, il n'y avait pas de formation à l'informatique musicale dans les conservatoires que je fréquentais avant. Et donc, le vrai enjeu à l'IRCAM, c'était l'arrivée du numérique qui a absolument tout envahi. Et donc, moi, j'ai commencé un travail en tant que chercheur. Ensuite, je me suis occupé des équipes de recherche. Très tôt de l'IRCAM, j'ai commencé à travailler avec Pierre Boulez, le fondateur de l'Institut, pour la création électronique de les quatre œuvres qu'il a créées à l'IRCAM. Donc, tout au long, jusqu'à la fin de ma carrière à l'IRCAM, j'ai eu une activité de production, création musicale à travers les projets de Pierre Boulez. Mais sinon, à différents moments, je me suis occupé des postes de recherche musicale, de production, de la pédagogie, d'autres types de travail de coordination au sein de l'Institut. Donc, j'ai fait pas mal de choses pendant mes 40 ans à l'IRCAM.
Vous avez notamment coordonné le projet Ulysse. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est exactement Ulysse?
Le projet Ulysse, il s'inspire un peu d'Ulysse de la mythologie grecque, quelqu'un qui fait un parcours pour in fine retourner chez lui. Donc, ce n'est pas tout à fait ça. Mais le métaphore là-dedans, c'est celui du parcours qu'un jeune compositeur, un jeune musicien va entreprendre pour avoir une vision plus large de la création musicale. Et Ulysse essaye de se positionner dans un moment un peu charnière dans la vie des jeunes musiciens, qu'ils ont fait le conservatoire dans leur pays, etc. Et après, il faut qu'ils fassent le saut du conservatoire vers la vie professionnelle. Et c'est là où l'ULIS va intervenir pour leur donner comment dire, la possibilité d'explorer d'autres pays, d'autres pratiques musicales, confronter d'autres esthétiques. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, c'est de leur donner la possibilité d'avoir accès à des cours de professionnalisation de très haut niveau, et avec des compositeurs, des chefs d'orchestre, des ensembles de premier plan. Donc, c'est ce contact-là aussi qui va leur aider sur le plan de la professionnalisation, mais qui, en même temps, va leur donner un peu de visibilité, un peu d'exposition dans différents cadres culturels. Ce qui a été créé à un moment donné, c'était l'ensemble Ulysse. Et donc, c'est un ensemble qui est créé chaque année avec des jeunes musiciens et qui vont faire pendant l'été une tournée de plusieurs pays. Il y aura un répertoire qui sera le même d'un pays à l'autre, mais dans chaque pays, il y aura des œuvres qui vont aussi s'additionner au programme musical. Et donc, ça devient un parcours très riche qui se fait dans très peu de temps. Après, il y a une autre chose, un autre mécanisme qu'on a créé qui s'appelle le Ulysses Journeys. Ça se passe plutôt au niveau de l'artiste individuel. Les différents partenaires d'Ulysse vont, au début de la saison, annoncer qu'ils ont certaines activités de formation, de concerts, etc., etc., où il y aura un certain nombre de places qui sont disponibles pour les artistes Ulysse.
Ce sont des bourses pour qu'ils voyagent, pour qu'ils se déplacent?
Voilà, exactement. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on leur donne, on leur facilite la vie pour qu'ils puissent voyager. Donc, tout ce qui est voyage, hébergement, etc. Et à travers ce mécanisme-là, par exemple, dans une saison, ils peuvent dire, bon, je m'intéresse à ces trois académies ou ce concert-là et d'autres activités. Et donc, ils s'inscrivent pour faire une espèce de parcours, donc Ulysses Journey. Ulysses existe depuis 2012. Maintenant, Ulysses est dans sa quatrième édition. Au début, c'était un cooperation, large-scale cooperation project, et aujourd'hui, c'est un projet plateforme.
Comment est née l'idée d'Ulysse à la base? Qui l'a eue et qui a travaillé à son développement?
Il y avait Olivia Bernard de la SACEM et il y avait Franck Madlener, directeur de l'IRCAM. L'idée, c'était de créer justement un mécanisme pour que les jeunes compositeurs, les jeunes musiciens, les instrumentistes et autres puissent avoir justement cette opportunité d'un peu élargir leur perspective à un moment crucial de leur formation. Et donc, la motivation était celle-là. Après, il y a eu la première série de partenaires. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles Ulysse a plutôt bien fonctionné, c'est que beaucoup de temps a été pris pour sélectionner les partenaires, parce qu'on peut très bien se dire, bon, il y a la possibilité d'avoir une subvention et il faut avoir 10 partenaires et donc monter un dossier, etc. Mais au final, si les gens ne sont pas fondamentalement convaincus au fond qu'ils partagent un peu les mêmes ambitions, les mêmes priorités, etc. Ça peut pas marcher. Donc, je crois qu'une des raisons pour lesquelles ça a bien marché, c'est qu'il y a eu ce travail en amont du premier dossier soumis à la Commission européenne pour réunir une première dizaine, douzaine de partenaires, dont la plupart restent fidèles jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des changements pour différentes raisons, mais il y a un noyau qui est resté stable jusqu'à maintenant.
Est-ce que vous pouvez nous décrire quel type de partenaire c'est? Est-ce que ce sont des orchestres, des festivals, des écoles de musique qui collaborent à Ulysse?
C'est majoritairement des académies de musique qui sont soit connectées avec une université, soit connectées avec un festival, soit connectées avec un organisme de formation. Donc, par exemple, il y a un des partenaires qui est l'Ensemble Moderne, qui forme des jeunes musiciens, mais c'est toute une année. Et donc, ils participent dans Ulysse. Il y a l'IRCAM, qui est le coordinateur du projet. Et les autres partenaires sont des académies d'été ou des festivals. Voilà, donc c'est assez, on va dire, c'est assez varié comme profil des compositeurs, mais ils sont tous motivés par la même ambition à la fin.
Donc ça, c'est pour le réseau Ulysse qui existe depuis 2012 et depuis 2024, Ulysse, c'est aussi une plateforme qui permet aux artistes de créer un profil professionnel, de candidater à des appels à résidence ou à des festivals et de trouver des collaborateurs pour leurs projets musicaux. Et elle permet aussi aux institutions de l'autre côté de publier des opportunités ou de repérer des artistes. C'est un peu comme un LinkedIn spécialisé musique contemporaine. Comment ça marche cette plateforme et comment vous avez eu l'idée de faire évoluer le réseau en une plateforme ?
Ben, en fait, le passage du projet de Large Scale Corporation à la plateforme était facile parce qu'à la base, on est en train de promouvoir des jeunes artistes. Et donc, on était déjà dans ce business-là, si je peux dire.
Quand vous dites jeunes artistes, il y a un critère d'âge ou c'est plutôt par rapport à leur parcours personnel ? Par exemple, est-ce que quelqu'un qui se reconvertit à 40 ans dans la musique pourrait participer au projet Ulysse ?
On est resté très focalisé sur cette étape entre le conservatoire, la sortie du conservatoire et la vie et l'insertion dans la vie professionnelle. Donc, les artistes les plus âgés, si je peux dire, on a essayé de fixer la limite à 35 ans. Sachant que, cas extrême, si on prend le cas d'un jeune compositeur, une jeune compositrice ou un jeune instrumentiste ukrainien qui voit sa carrière, son développement, sa formation stoppée par la guerre, on va prendre en considération ce genre de choses-là quand il s'agit de regarder l'âge de l'artiste. Ce qui prime, c'est l'intérêt qu'on peut avoir pour l'artiste en question. Et après, les mécanismes pour la forme sont les mécanismes qu'on a trouvés, qu'on a inventés pendant les précédentes versions d'Ulysse quand il avait sa forme de projet Large Scale Corporation.
Qui peut s'inscrire sur cette plateforme et comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il faut déposer une candidature ? Est-ce que c'est payant ? Comment ça marche ?
Il y a deux mécanismes. Il y a le mécanisme, on va dire, interne. Les directeurs artistiques qui représentent chacun des partenaires, on leur demande chaque année de fournir deux ou trois noms qu'ils trouvent intéressants. Donc, il y a une forme de sélection qui est faite à partir de ce mécanisme-là. Et après, il y a une autre forme de sélection qui est totalement ouverte. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un partenaire qui a une activité et il ouvre... Il ouvre quatre places à des artistes qui vont être soutenus par le projet Ulysse. Alors peut-être deux de ces artistes-là vont être des noms qui ont été suggérés, discutés à travers les artistes, à travers le directeur artistique. Et les deux autres, ils vont être recrutés à travers des appels à candidature ouverts que l'organisateur de cet événement-là va faire. Une fois que l'artiste aura fait l'activité, le masterclass, l'ensemble, ce que vous voulez, il y a une discussion sur un peu cet artiste. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on veut soutenir par la suite ? Et donc, c'est un nom qui revient dans le pot des noms qui circulent. Et après, il y a un troisième mécanisme qui est simplement les gens, ils ont la possibilité, à travers la plateforme, de postuler. Et ces noms-là sont récoltés et mis en circulation parmi les partenaires. Après, en fonction de la personne, ses ambitions, son niveau, etc., etc., on va peut-être le sujet qui participe à telle ou telle activité ensuite. Donc, vous voyez, il y a trois mécanismes pour détecter les artistes.
Ce projet a été financé par Europe Créative via l'appel à projet European Platforms. Je suis allée lire les critères de l'appel à projet. Ils disent que c'est un appel qui aide à financer des plateformes capables de mettre en visibilité des artistes émergents européens, organiser une programmation coordonnée à l'échelle européenne, structurer un réseau d'organisations culturelles et renforcer la circulation des œuvres et des artistes. Vous êtes pile dans cette démarche avec Ulysse. Je me demandais à quel point le projet plateforme, je veux dire de la plateforme Ulysse, a été imaginé pour rentrer dans les critères de l'appel à projet d'Europe Créative ou c'était juste une continuité naturelle de ce que vous faisiez avec Ulysse avant que ça devienne une plateforme.
Les projets Large Scale Cooperation étaient des projets, comme le nom l'indique, de coopération entre différents partenaires. Après, il y avait certaines choses comme la circulation des œuvres et d'artistes était là-dedans. Mais je crois que la particularité de Projet Plateforme, c'était de resserrer le focus sur les artistes et les artistes émergents. Comme ça, ça tombait pile poil dans des objectifs du LIS, parce qu'une fois de plus, on est en train de s'adresser à des artistes qui essayent d'émerger, qui essayent de se donner une visibilité, une identité. Et je crois que ça, c'est la particularité. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris, moi, la particularité des projets plateforme. C'était de resserrer le focus sur des compositeurs, vraiment, fixer l'artiste comme objectif principal, l'artiste émergent.
L'appel à projet plateforme peut seulement être déposé en consortium avec des institutions de plusieurs pays. Comment s'est organisé le consortium de la plateforme ULIS ? Est-ce que c'est vous qui l'avez dirigé à l'IRCAM ? Et qui s'est occupé de quoi ?
Comme j'ai dit, il y a des partenaires qui se sont rajoutés, il y a des partenaires qui sont partis. Après, l'IRCAM, comme étant hors coordinateur, c'était son job de suivre les activités de tous les consortiums. Et pour ça, on a mis en place ce qu'on appelle une équipe de coordination, qui était le coordinateur lui-même, aidé par trois autres personnes qui étaient très importantes. Un, c'était une sorte de community manager. Un autre, c'était quelqu'un qui suivait avec beaucoup de détails les activités pour lequel les différents membres du consortium s'engageaient. Et après, il y avait une quatrième personne qui était là pour surveiller l'aspect budgétaire. Donc, on avait un comité de management, si je puis dire, qui ensuite organisait toutes les activités avec les représentants de chacun des institutions participantes. Il y a un accent qui a été mis pour la plateforme, puisqu'il s'agissait des jeunes compositeurs émergents, etc., de comités spécifiquement artistique, où les représentants artistiques de chacun des institutions discutaient avec leur homologue au niveau artistique. Il y a une chose qui a été très importante, c'était qu'il y avait une espèce d'éthique d'être networky. C'est-à-dire que s'il y avait une activité, il fallait absolument que ça soit mener un objectif de réseau, de vraiment communication, circulation d'informations, etc. Pour éviter, il y a un danger dans tous ces genres de projets où il y a des différentes institutions dans différents pays. Bah, tout le monde peut rester tranquillement dans son coin et faire son travail. Donc, c'est ce qu'on appelle le business as usual. Donc, on a essayé d'éviter le business as usual et être le plus networky possible. Donc ça c'était quelque chose d'important. Et après, l'autre chose qui était importante, c'était l'idée des méthodologies partagées. Et donc, au lieu d'avoir des gens qui simplement restent dans leur coin et faire comme ils ont l'habitude de faire, il y a eu un véritable échange, parce qu'après, on a comparé les résultats des projets en utilisant les mêmes méthodologies. Et donc, on a gagné en connaissance les uns par rapport aux autres. Donc, ça, c'est un exemple d'une approche networking qu'on a essayé d'implémenter.
Grâce à l'appel à projet plateforme, vous avez reçu 2,8 millions d'euros pour la période 2024-2028 pour financer la plateforme ULIS. Que vous a permis cette aide ?
Cette aide-là, ça nous a permis essentiellement de financer partiellement les activités qui ont été organisées par les différents partenaires, les Jeunes Ensembles, le projet In Situ, les commandes qu'on fait aux jeunes artistes. Et donc, ça nous a permis de soutenir toutes ces activités-là dans le cadre des objectifs qu'on a fixés dans le projet.
Qui a apporté le reste du financement pour que cette plateforme puisse voir le jour et fonctionner ?
Essentiellement, ça vient des budgets propres de chacun des membres. Pour la plateforme, on est en gros une répartition par exemple, pour un projet coûte 1 000 euros, pour que les choses soient concrètes. La commission fournit entre 600 et 700 euros de cette somme-là. Et le reste, c'est à la charge des partenaires dans la plateforme. Et chaque année, ça devient de plus en plus compliqué pour faire ça à cause de rétrécissement de l'argent disponible globalement, on va dire, mais aussi la volatilité de la situation sur le plan économique. Par exemple, des subventions promises ne sont pas in fine accordées ou qui viennent dans des délais qui ne sont pas pratiques, etc. Donc, il y a toutes sortes de... Les partenaires, ils ont eu toutes sortes d'expériences différentes de ce type-là.
L'IRCAM est coordinateur de la plateforme Ulysse. Est-ce que ça veut dire que c'est l'IRCAM qui a reçu l'argent de la Commission européenne et d'Europe créative et qui l'a redistribué aux différents partenaires, ou est-ce que vous avez fonctionné différemment?
Non, c'est exactement ce que vous venez de dire. La subvention arrive directement de l'IRCAM et après c'est distribué en fonction des budgets qui ont été préétablis, qui ont été établis au moment du dépôt du projet. Mais après, l'IRCAM garde un œil sur quoi les partenaires se sont engagés par rapport à ce qu'ils ont fait. Et ça peut être dans les deux sens. Ils ont fait plus ou ils ont fait peut-être moins. Il faut gérer toutes ces choses-là. Avec le système de plateformes, l'octroiement de budget, il y a une sorte de mécanique qui se fait année sur année, à la différence de Large Scale Cooperation qui s'est fait une fois au début, une fois au milieu et le solde à la fin, si je peux dire. Et là, dans les projets plateformes, c'est chaque année. Mais le coordinateur garde un œil sur la performance de chacun des partenaires et garde un œil sur le contrôle des budgets de ce point de vue-là.
Donc, être structure coordinatrice, ça implique d'avoir des personnes vraiment dédiées à coordonner le projet à l'année.
Absolument. Sans ça, ça ne peut pas fonctionner.
Les appels à projets de l'Union européenne... Les appels à projets de la Commission européenne et notamment European Platforms demandent aux candidats de décrire dans leur candidature comment, dans la conception et dans la mise en œuvre de leur projet, ils entendent contribuer aux efforts de l'UE en matière de transition écologique et numérique. Et les candidats doivent aussi répondre aux priorités d'inclusion et d'égalité des sexes et inclure une dimension internationale. Qu'est-ce que vous avez mis en place au sein du projet Ulysse pour répondre à ces exigences d'Europe créative ?
Par exemple, sur le plan écologique, on a essayé d'encourager les différents partenaires d'organiser le séquencement de leurs activités pour que l'impact, sur l'environnement, soit le moins possible en termes de simplement des voyages des artistes. On a établi des critères pour essayer de faire en sorte que l'impact écologique soit le moins négatif possible.
C'est-à-dire faire voyager les artistes surtout en train ou faire un calendrier de déplacement qui soit logique?
Les deux. C'est-à-dire que quand c'est possible de qu'ils voyagent par train, mais par exemple quand il y avait deux événements qui étaient organisés, les organiser de telle façon que le temps était assez espacé pour qu'ils puissent faire la transition l'un à l'autre sans multiplier les voyages d'avion. On a établi une politique assez stricte sur l'égalité des artistes hommes-femmes en ce qui concerne les compositeurs, compositrices, les instrumentistes, etc. Mais ce n'est pas toujours facile d'être absolument strict en termes d'égalité hommes-femmes, mais dans l'ensemble, on s'était plutôt bien sorti sur ce plan-là.
Un des buts affichés de cet appel à projet d'Europe créative, c'est de créer ce que la Commission européenne appelle une marque européenne. C'est quoi la marque Ulysse?
Nous, on a créé un label Ulysses Artist. Les artistes, pour dire les choses simplement, avec qui on a été satisfaits de leur performance de travail, on leur a donné le label de Ulysses Artist. Et étant donné qu'avec le temps, le projet Ulysse a créer une sorte de, par elle-même, une espèce d'image de marque. Quand un directeur artistique, il apprend que tel artiste a participé dans des activités d'Ulysse, c'est déjà une bonne chose. Donc, on avait créé donc, le branding ou le labeling d'artiste Ulysse pour justement accentuer cette dynamique-là.
Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut candidater à l'appel à projet European Platforms du programme Europe Créative?
Soyez bon, soyez imaginatif. Je crois que c'est les deux choses qui sont le plus important. Quand il y a un élève qui sort d'un conservatoire, on va s'intéresser à quelqu'un qui est pas uniquement comment dire, bon dans ce qu'il fait, il ou elle, que ce soit en tant que compositeur, compositrice, instrumentiste, etc., mais qui montre aussi, je dirais, une ouverture, une curiosité, une réelle capacité créatrice qui lui donnera des opportunités pour l'avenir. Le nerf de la guerre dans tout ça, c'est la créativité, l'inventivité. L'idée, c'est pas du tout de se contenter des formules, des formats, des modes de fonctionnement, de pratiques, etc. Et il faut toujours encourager les jeunes artistes d'apporter quelque chose de nouveau, de regarder ce qu'ils font d'une autre façon. Et on essaie de pousser les jeunes artistes dans la position d'un directeur artistique, pour que l'artiste puisse se regarder et se dire, ah bah j'ai telle relation avec d'autres artistes, ou j'ai telle relation avec tel répertoire ou tel contexte, etc., etc. Il ou elle va se regarder autrement. Et donc on essaie d'encourager ce genre de mécanisme.
Donc être créatif, le faire ressortir dans son dossier et aussi imaginer la perspective que peut avoir la Commission européenne sur son dossier Europe créative.
Absolument, que la personne montre quelque chose qui nous dit il y a de la matière.
Merci beaucoup, Andrew Gergeau.
Je vous en prie.
Si cette interview vous a donné envie d'en savoir plus sur l'IRCAM ou sur le projet Ulysse, je vous invite à faire un tour sur IRCAM.fr. Et si vous êtes intéressé par l'appel à projet European Platforms du programme Europe Créative, qui soutient des plateformes capables de mettre en visibilité des artistes émergents européens, organiser une programmation coordonnée à l'échelle européenne, structurer un réseau d'organisations culturelles et renforcer la circulation des œuvres et des artistes, vous trouverez une fiche détaillée qui explique les critères de cet appel à projet et toutes les infos nécessaires à la préparation de votre dossier sur le site du Relais Culture Europe, volet culture. Et exceptionnellement, je ne vous dis pas à dans 15 jours, mais à dans un mois pour un nouvel épisode du podcast De l'idée au projet qui sortira à la rentrée. Bel été! De l'idée au projet est un podcast du Relais Culture Europe, bureau français du programme Europe Créative. Journalisme et réalisation, Mathilde Mélin.